Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons revenir sur la fin de ce chapitre, et en particulier les versets 14 à 16. On va lire à partir du verset 11, Éphésiens, chapitre 2. Et nous lisons donc à partir du verset 11. Donc on a déjà vu dans la première partie où Paul à parler de ce salut, de ce que nous étions par nature, des morts dans nos péchés, des enfants de colère comme les autres. Et ce n'est pas nous qui avons fait la différence, c'est Dieu qui nous a donné la vie en Christ. Et tout cela par grâce. Et donc il continue au verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a lu un passage dans l'Ancien Testament, mais quand on lit dans le livre de la Genèse, un des événements important avant l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, un des événements importants de l'humanité dans le sens général, se trouve en Genèse chapitre 11. Ça vient après la chute d'Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du jardin, ils ont eu des enfants, les générations se sont suivies. Et on voit aussi que la violence est venu dans ce monde dès la première génération qui est née dans le monde, puisque Caïn a tué son frère Abel. Et au chapitre 11, l'humanité est réunie, mais elle est réunie dans sa rébellion contre Dieu. Et les hommes cherchent à usurper la gloire de Dieu, à prendre la gloire de Dieu. Et c'est cet événement de la tour de Babel. Et on lit au début de ce chapitre, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Ils dirent alors, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Cela, bien sûr, reprenait la tentative, c'était une imitation de la tentative de Satan, de renverser le règne de Dieu. Dieu qui avait dit à l'homme de remplir la terre, de remplir cette création. Et voilà l'homme qui se rebelle et qui dit « Non, on va rester entre nous et ne pas être dispersé sur toute la terre. » Et voilà, Dieu regarde. Bien sûr, c'est Moïse qui écrit, il utilise le langage humain. Il dit, Dieu regarde, il s'abaisse pour voir cette petite tentative de rébellion et il va confondre le langage. Genèse 11, verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et là, on a l'origine de comment toute la race humaine a été dispersée, comment elle est Elle a conquis, elle est arrivée sur les différents endroits de la terre. Elle a été divisée en cultures, en peuples et en nations qui se font la guerre et qui se sont fait la guerre pendant toute l'histoire. Et donc, c'était la situation depuis la tour de Babel jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. C'était la situation qui existait quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Mais on sait que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour défaire les effets du péché, y compris la tour de Babel. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, verset 8, la fin du verset, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et donc si Genèse 11 est le point culminant des effets du péché avec cette division, on devrait s'attendre au contraire avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit. On le voit déjà dans le livre des Actes. Rappelez-vous, au jour de la Pentecôte, quelques semaines après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et quelques jours après son ascension dans la gloire, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, a déversé l'Esprit Saint sur son Église. Et dans toute l'assemblée, dans toutes les gens qui étaient là à Jérusalem, il y avait des personnes de toutes les langues, de toutes les nations, de tous ces peuples qui avaient été créés au temps de Babel, lors du jugement de Dieu. Et ces mêmes personnes sont maintenant rassemblées par l'Esprit de Dieu. On lit en Actes 2, à partir du verset 7, lorsque Pierre a commencé à prêcher, on lit ces gens qui disent, mais ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et effectivement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la venue du Seigneur Jésus-Christ, cette venue que le Seigneur Jésus-Christ, par sa venue, apporte la paix à toutes ces tribus qui sont éparpillées de par le monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut souligner à ses Éphésiens. Rappelez-vous, ils sont essentiellement des chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire d'origine non juive, qui habitent en Asie mineure. Et il leur a souligné, il les a rappelés, verset 12, qu'ils étaient sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et puis maintenant, verset 13, ils ont été rapprochés par le sang de Christ, réconciliés avec Dieu par la croix de Christ. Mais il y a quelque chose de plus à connaître, quelque chose de plus à expérimenter. À savoir que cette guerre sans fin qui a été initiée par le péché, que maintenant la victoire a été remportée. Nous sommes en paix avec Dieu, oui, par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous pouvons aussi être en paix avec des hommes et des femmes. Éphésiens 2, 6, verset 16 nous dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu d'une telle manière qu'il nous a aussi amenés en un seul corps, par la croix, en détruisant par la croix l'inimitié, la séparation. Et Paul donc nous parle de cette bonne nouvelle de la paix. Tout d'abord, la paix rendue possible par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la paix qui est rendue réelle par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, la paix qui est expérimentée par cette nouvelle humanité qui est l'Église, le corps de Christ. Donc voilà les trois points. Le premier point, la paix qui est rendue possible par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'il souligne par exemple au verset 13. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais il continue son argumentation et il le dit au verset 14, car Christ est notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire des deux hommes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il parle bien sûr de cette division que nous avons abordée la dernière fois, cette division principale au sein de l'humanité, la division entre les juifs et les non-juifs. Et c'est une conséquence de cette division que Dieu lui-même avait créée en Genèse 3, verset 15. Dans le jardin d'Éden, après que Adam et Ève aient chuté, Dieu avait maudit le serpent en disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Et c'est une disposition à la fois de miséricorde et de protection de la part de Dieu, parce que sans cette inimitié entre les Juifs et les non-Juifs, il n'y aurait plus cette différence. Le peuple d'Israël ferait partie de ce monde pécheur, serait absorbé dans la rébellion de ce monde contre Dieu. La préservation de ce peuple, et donc la préservation de la postérité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, exigeait qu'il y ait cette inimitié, cette hostilité entre le peuple que Dieu avait choisi et le peuple du monde, si on peut dire ainsi. Il fallait qu'il y ait cette inimitié jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette inimitié, cette hostilité existait dans le temps du Nouveau Testament, lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Paul parle ici du mur de séparation, de cette inimitié qui a été créée par la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et la dernière fois, on a parlé de ce mur physique qui existait, qui empêchait les non-juifs d'entrer dans le temple. Ce mur avait des avertissements qui étaient en grec et en latin et qui disaient que tout non-juif n'avait pas le droit d'entrer au-delà de ce mur dans le temple. S'il le faisait, il risquait la peine de mort. Et pour Paul, ce mur est un symbole de tout ce système de loi qui sert à garder le juif séparé du non-juif. Le juif, par exemple, ne pouvait pas s'asseoir à la même table qu'un non-juif. Il ne pouvait pas manger de la même nourriture qu'un non-juif. Il s'habillait différemment. Il ne pouvait pas épouser une non-juive. Il ne pouvait même pas entrer dans une amitié profonde avec un non-juif. Pour le non-juif qui regardait le juif, il le considérait comme étant étrange, comme étant distant. Pour le juif, il a été amené, au lieu de voir cela comme étant une bénédiction pour attirer les nations à Dieu, il a vu cela comme étant le moyen de s'enorgueillir et de considérer le non-juif comme étant inférieur, comme étant impur. Mais Paul dit que Jésus est venu pour abolir tout cela. Il a brisé le mur de la séparation par sa chair, c'est-à-dire par sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait s'approcher de Dieu si ce n'était le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi, c'est-à-dire Israël, le peuple juif. Ils avaient le tabernacle et ensuite le temple à Jérusalem. Toutes les autres nations étaient dans les ténèbres, à l'exception, comme on a vu, de ces personnes à qui Dieu a fait grâce, comme Rahab, au temps de Josué, et comme quelques autres. Mais tout cela était quelque chose de temporaire. Paul l'explique dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, les versets 23 et suivants. Tout cela était temporaire pour garder l'intégrité du peuple de l'Alliance jusqu'à la venue du Messie, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la venue de Christ dans ce monde a aboli l'administration de la loi de Moïse et a ouvert cet accès à tous, cet accès dans la présence de Dieu. En Galates 3, verset 23 et suivant, Paul dit ceci, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et le christianisme, cette foi en Christ, s'est rapidement répandue dans le monde, en partie parce que toutes les barrières culturelles pouvaient être surmontées par la grâce, par la vérité de l'Évangile. Et une fois que les apôtres avaient compris que ce message de la foi en Christ, de l'Évangile, dépassait toutes les divisions humaines, on les voit s'opposer vigoureusement à tous ceux qui ont essayé d'imposer les pratiques culturelles juives sur des croyants d'origine non juive. Parce que n'importe qui peut devenir enfant de Dieu, tel qu'il est, par une foi vivante en Jésus-Christ. Ce n'est plus réservé au peuple que Dieu a choisi. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'a illustré quand il s'est assis au bord d'un puits, à côté de la femme samaritaine, en Jean chapitre 4. Cette femme était étonnée parce qu'aucun homme juif n'avait le droit, normalement, de s'asseoir à côté d'une femme non-juive. Aucun juif ne devait parler à une femme non-juive. Et en plus, lui demander de l'eau, c'est quelque chose d'inimaginable. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ s'assoit à côté d'elle, lui parle de l'eau qu'il donne, de l'eau de la vie qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Et Jésus va dire en Jean 4, verset 23, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ce n'est plus une question de lieu comme Jérusalem ou de montagne ou quoi que ce soit, de lieu physique. Non, c'est en esprit et en vérité. Et cette femme est devenue la première évangéliste parmi les Samaritains. Des gens ont entendu son témoignage, sont venus à Jésus en disant, Jean 4, verset 42, « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'il faut quitter sa propre culture. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vivent une vie de sainteté parce qu'ils n'ont aucun ami non-croyant ou parce qu'ils n'aiment que le divertissement soi-disant chrétien, qu'ils n'ont rien à voir avec leurs voisins ou qu'ils traitent leurs collègues incroyants comme étant des impurs. Mais la mort du Seigneur Jésus-Christ, son œuvre sur la croix, a libéré le peuple de Dieu de tous ces liens juvéniles du légalisme. Nous sommes maintenant appelés à aller dans le monde, à être dans le monde sans faire partie du monde, à être le sel qui préserve de la décomposition, à être la lumière qui éclaire les ténèbres. Jésus a traité cette femme au bord du puits comme une personne pleine de dignité, pleine de valeur. Et bien qu'elle soit samaritaine, Jésus lui a demandé un service. Bien que Jésus soit le genre de personne qu'elle avait appris à haïr, elle a été attirée à lui à cause de cette combinaison de grâce et de vérité. Et la mort de Christ a rendu possible la paix dans le monde, à travers son œuvre, à travers l'Évangile, à travers son œuvre sur la croix, sa mort sur la croix. Nous sommes maintenant des ambassadeurs dans ce monde, non pas du jugement de Dieu et de sa colère qui un jour va venir, mais nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation que Dieu offre à tous, comme Paul le dit en 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que cette réconciliation avec Dieu est possible par la foi en Jésus-Christ. La mort de Christ rend possible donc la paix entre l'homme et Dieu. La deuxième chose, c'est que cette paix est rendue réelle par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité de la tombe. Et c'est cette résurrection qui, en réalité, crée la paix. C'est pour ça que nous parlons toujours de la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de sa résurrection. La mort de Christ enlève les barrières qui empêchaient notre acceptation dans la présence de Dieu. La résurrection amène la résurrection spirituelle dans nos vies. Et c'est elle qui nous transforme et qui nous amène à Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, comme Paul le dit dans ce chapitre 2, au verset 5, « Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Maintenant, par la puissance de sa résurrection, verset 15, Dieu crée en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Paul nous dit qu'en faisant de nous ses disciples, Dieu fait de nous une nouvelle humanité. Jésus ne fait pas la paix en persuadant deux personnes différentes de faire un bout de chemin ensemble. Il ne dit pas aux Juifs qu'ils doivent être bons envers les Juifs et l'inverse non plus. Non, il dit « Vous n'êtes plus ce que vous étiez. » Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Ne vous considérez plus comme juif ou ne vous considérez plus comme non-juif. Considérez-vous maintenant comme chrétien, un nouveau genre de personne. Le christianisme, ce n'est pas un pansement sur la vieille humanité, cette humanité que nous avons héritée d'Adam et Ève. Non, avec ses divisions. Non, le christianisme, c'est une nouvelle humanité en Christ. C'est une humanité qui est passée par la mort de la croix, par le tombeau ouvert de la résurrection pour recevoir la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait donc que nous sommes les membres de cette nouvelle humanité? C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est ce qui se passe quand quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ce que Paul souligne ici. « En Christ, nous sommes quelqu'un de nouveau. Christ est mort et ressuscité afin, verset 16, de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Il nous donne une vie nouvelle, une identité nouvelle que nous partageons maintenant avec tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine. Et c'est le moyen le plus radical de faire la paix, de former un seul corps. L'analogie la plus proche, on va la trouver dans le milieu familial. On dit que la voix du sang parle toujours plus fort. Les membres de la famille vont s'aider, vont s'épauler dans des moments difficiles, même s'ils ne s'entendent pas toujours. Mais le lien de l'esprit est encore plus fort que cela. Jésus a fait de nous, qui sommes à Christ, un seul corps, en nous donnant à chacun le même esprit, en nous amenant dans sa famille, en faisant de nous des frères, des sœurs en Christ pour toujours. Et c'est la base de cette véritable union, c'est notre relation personnelle et mutuelle avec Dieu par Christ, c'est notre amour mutuel pour Christ, c'est être chacun habité par le même esprit pour expérimenter cette union spirituelle, cette union en Christ. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ rend cette union, cette paix, réel. Le troisième point, c'est que cette paix est expérimentée par cette nouvelle humanité qui est l'Église. Ce passage nous dit ce qu'est l'Église, c'est une nouvelle humanité en Jésus-Christ, une nouvelle humanité qui vivra pour toujours. Et donc, c'est en réfléchissant, en méditant sur ce passage qu'on peut voir ce que Paul nous dit au sujet de l'importance de l'Église. Il n'y a rien comme l'Église, il n'y a rien de plus important qui mérite notre implication. On n'est pas un club social. L'Église n'est pas une société d'entraide, même si nous nous entraidons. Mais nous sommes une nouvelle création qui a été amenée par l'Esprit de Dieu, qui a été déversé parmi nous par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes cette nouvelle société qui vit pour le moment dans ce monde, dans ce mauvais siècle présent, mais qui est destinée à vivre pour l'éternité dans la gloire. L'Église est l'épouse de Christ, c'est la nouvelle humanité. Les anges nous regardent avec étonnement, nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de faire partie de l'Église. Il n'y a que l'Église qui peut connaître la paix de Dieu, parce que c'est dans l'Église au sens large, mais aussi dans l'Église au sens local. C'est dans l'Église que Christ fait la paix, par la foi en Christ. Dieu a envoyé son Fils pour réconcilier des pécheurs à lui-même, verset 16, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et pour faire partie de cette nouvelle humanité, il faut donc venir à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toute la logique de l'apôtre Paul dans ce passage, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et un peu plus loin, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et un des grands signes de l'assurance du salut, c'est d'expérimenter cette union, cette paix. Imaginez des personnes qui, naturellement parlant, ne sont pas attirées l'une à l'autre. Mais les deux personnes sont chrétiennes. Et elles parlent de Christ, elles parlent de sa parole. Et petit à petit, leurs cœurs sont attirés l'un à l'autre. Et c'est un signe que l'Esprit de Dieu habite dans ses cœurs. Et ça cause le monde à s'émerveiller. En Christ, nous surmontons les divisions que connaît ce monde et que le monde ne peut pas surmonter. Des divisions de race, des divisions de nationalité, des divisions, on peut imaginer toutes sortes d'autres divisions. Mais en Christ, nous jouissons d'une union spirituelle qui est baignée dans l'amour fraternel et que le monde ne connaît pas. Et cette description de l'Église que Paul fait est importante pour nous. On nous dit qu'aujourd'hui, les gens aiment être avec ceux qui leur ressemblent. Et on voit partout, par le monde, qu'on a créé des assemblées, des églises pour des jeunes blancs branchés, d'autres pour des noirs ou des personnes d'origine de colonies africaines, ou d'autres pour des intellectuels, ou d'autres pour ceux qui sont plutôt réservés. L'Église est devenue un genre de multiplex avec différentes salles. Et si on pousse un peu plus loin, certaines assemblées ont même divisé leur culte. Il y a un culte qui est classique, l'autre qui est traditionnel, liturgique, et un autre qui est plus rock and roll. Et on attire les gens. Et ça attire les gens. Et sur le plan numérique, c'est un succès. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit ici que l'Église est un nouvel homme en Christ. Un nouvel homme. Christ ramène des groupes qui sont naturellement hostiles et les amène à former un seul corps. Christ n'est pas glorifié quand on s'assemble sur la base de divisions humaines ou de préférences personnelles. Le monde fait cela. Ce qui glorifie Christ, c'est de trouver toutes sortes de personnes aussi différentes les unes des autres, réunis ensemble à cause de leur lien spirituel en Christ. Des jeunes, des vieux, des célibataires, des mariés, des branchés, des gens qui sont plus posés, des riches, des pauvres, des gens de toute race, de toute couleur de peau, de toute tribu, de toute langue. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est possible que par l'œuvre de l'Esprit de Christ qui habite dans le cœur de chacun de ses enfants, qui unit ces personnes qui autrement ne se côtoieraient même pas. Dans un sens, chaque église locale a sa propre identité, sa propre histoire, mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a une unité chrétienne qui est plus grande que cela. L'adoration ne devrait pas être déterminée par la tradition, mais par la parole de Dieu. Et on devrait faire essentiellement ce que tous les chrétiens ont fait tout au long de l'histoire. Reconnaître, confesser nos fautes, entendre le pardon de Dieu en Jésus-Christ, chanter les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, prêcher la parole, partager le repas du Seigneur, baptiser les nouveaux croyants. Et en avançant dans la vie chrétienne, on va de plus en plus laisser de côté toutes ces choses qui appartiennent à notre culture pour vraiment se focaliser sur ce qui est biblique, ce que dit la parole. Nous sommes, dit Paul, la nouvelle humanité en Christ. Nous ne faisons plus partie de cette humanité de ce monde, même si nous sommes encore dans ce monde. Qu'est-ce que l'on peut dire pour conclure? Trois choses. La première observation, c'est par rapport au genre de paix que Dieu fait dans ce monde. C'est une paix intérieure, une paix remplie d'amour, une harmonie, une communion. Ce n'est pas simplement la cessation de batailles ou d'argumentation. Et en tant que chrétien, on ne devrait jamais se satisfaire de cela. Mais c'est une paix, une harmonie, une communion réelle en Christ. Est-ce qu'on trouve cette paix dans nos vies personnelles, dans notre famille? Ce n'est pas toujours facile de connaître ce genre de paix quand on vit avec des non-chrétiens. Paul nous exhorte en Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais dans nos relations avec des frères et sœurs en Christ, avec d'autres chrétiens, nous devrions connaître cette paix. Et on connaît cette paix quand on marche avec le Seigneur, quand on marche avec la puissance de l'Esprit, quand on marche sous l'autorité de la parole. Paul nous exhorte en Colossiens 3, versets 15 et 16, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que cette paix règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Alors pourquoi est-ce que peu de chrétiens connaissent cette paix? Parce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas tout ce qui est possible dans la vie chrétienne. Beaucoup ne réalisent pas combien Dieu est disposé et combien il est capable de répondre à nos prières avec une œuvre surnaturelle dans nos vies. Beaucoup trop de chrétiens vivent trop près du monde, restent sous l'influence du monde au lieu de vivre près de Dieu et sous son influence. Nous sommes effectivement dans le monde, mais n'en fait plus partie de ce monde. Et nous manquons cette paix parce que nous manquons cette proximité avec Dieu. Nous manquons cette œuvre de renouvellement de l'Esprit de Dieu qui tourne nos cœurs vers Dieu. On ne croit pas sérieusement aux paroles du Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous devrions croire davantage toutes les promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans sa parole, et connaître, vivre cette paix réellement. La deuxième observation dans ce passage devrait changer notre idée au sujet de ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas simplement un bâtiment ou une institution, L'Église, c'est la nouvelle humanité, la nouvelle famille de Dieu. C'est au sein de l'Église que Dieu va manifester sa gloire et qu'il appelle les uns et les autres à œuvrer pour l'édification de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est ce que Paul dira dans les chapitres 3 et 4. On est appelé à utiliser nos dons, à donner de notre temps, à contribuer aux besoins selon nos moyens, à prier pour la croissance de l'Église, cette nouvelle humanité en Christ. Étant donné que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a racheté l'Église par son sang pour faire la paix, nous devrions tout faire pour éviter de déranger cette paix et de causer des divisions et des conflits dans l'Église. Mis à part le faux enseignement, rien ne fait de plus de mal à une Église que la division et le conflit. Et donc si nous appartenons à une Église qui est biblique, qui est fidèle, qui annonce l'Évangile et qui cherche à vivre selon l'Évangile, nous devrions tout faire pour, en notre pouvoir pour rechercher la paix dans l'Église. Éviter d'être ceux qui perturbent la paix de l'Église que Christ s'est acquise par son sacrifice sur la croix. Et la troisième observation, c'est que ceci nous donne une nouvelle perspective sur la gloire de l'œuvre de salut de notre Seigneur Jésus-Christ. On a tendance à penser uniquement à ce que Jésus a fait pour nous individuellement, et c'est quelque chose dans laquelle nous nous réjouissons et nous remercions Dieu. Mais ici, on a une vision panoramique. Christ a renversé l'œuvre du diable dans le monde. Il a formé un peuple pour lui-même, une nouvelle race qui dépasse les anciens conflits, un royaume qui surmonte, qui surpasse toutes les allégeances, toutes les hostilités du passé. Christ n'a pas seulement fait des réparations avec l'ancienne humanité, non, il a fait quelque chose de glorieux, de nouveau à sa place. Il a utilisé les vieux matériaux de la création qui étaient déchus, mais il a lavé nos péchés. Il a soufflé en nous cette nouvelle vie par la foi en Christ, cette vie de résurrection. Et il a fait cette paix qui permet que des personnes d'origine différente puissent marcher ensemble et vivre en communion réelle. Et c'est vers quoi se dirige le plan de Dieu pour l'histoire. Cette restauration de l'humanité qui est déchue par le péché, qui est corrompue par le péché, cette restauration qui va se faire en Christ. Le prophète Ésaïe l'a annoncé en Ésaïe chapitre 11, en utilisant ces merveilleuses images. Il dit « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et c'est déjà une réalité pour nous aujourd'hui en Christ. Et ce sera notre futur en Christ. Cette communion, cette paix à tous les niveaux. Pas seulement la paix avec Dieu, pas seulement la paix en nous-mêmes, mais la paix entre les hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. La paix dans toute la création, il n'y aura plus d'hostilité. C'est la paix que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir, que nous connaissons déjà en partie si nous sommes à lui, et que nous connaîtrons pour toujours lorsque nous serons avec lui dans la gloire. Que Dieu donc nous aide à saisir ces choses, à nous réjouir de cette paix que nous avons en Christ, cette paix avec Dieu, cette communion, cette paix que nous avons les uns avec les autres, qui nous aide à garder cette paix, à protéger cette paix et à vivre dans cette paix qu'il est venu apporter pour son peuple. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.